Voici le texte liturgique pour ce dixième dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, vous savez qu'étant païens, vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous y étiez conduits. Apprenez donc qu'aucun homme, s'il parle dans l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur sinon par l'Esprit Saint. À la vérité, il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est bien le même Dieu qui opère tout en tous. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité de l'Église. L'un reçoit du Saint-Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du don du même Esprit le don de parler avec science. Celui-ci reçoit la foi par le même Esprit, celui-là reçoit du même Esprit la grâce de guérir les malades. L'un obtient le don du miracle, l'autre le don de prophétie. Celui-ci le discernement des esprits, celui-là le don de parler diverses langues. Un autre le don de les interpréter. Mais c'est le seul et même esprit qui produit tous ces dons, les distribuant à chacun comme il lui plaît. On se lève pour l'évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit cette parabole en vue de quelques gens persuadés de leur propre justice et plein de mépris pour les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes et adultères, et encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je paie la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenait à distance, ne voulait pas même lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine en disant, « Ô Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit justifié dans sa maison plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Veuillez vous asseoir. Alors, ce mercredi, nous aurons le cours de doctrine sur les actes du magistère, toujours l'explication sur la grande encyclique de Saint Pédis, Pascendi, donc à 19h ce mercredi. Cette semaine, messe tous les jours ici, 8h tous les jours, sauf samedi et dimanche, bien sûr, à 10h. Donc, l'ouverture de la chapelle est toujours prévue pour le jeudi 15 août. Donc le mercredi 14, la veille, donc nous aurons une journée de un petit peu de grand nettoyage pour préparer les dernières choses à préparer. Donc et tous ceux qui peuvent venir donner un coup de main ce mercredi 14, j'ai bien que c'est compliqué parce que c'est pas un jour férié, mais de 8h30 à 17h, donc ceux qui peuvent venir pour nous aider à tout préparer, qu'ils viennent s'il vous plaît, faites un effort. Alors tout ne sera pas terminé complètement pour le 15 août, bon, on fera avec ce qu'on a, la chapelle pratiquement est finie, une dernière fenêtre à poser. Le sous-sol n'est pas complètement terminé, merci pour tous ceux qui ont travaillé bien dur là-dessus cette semaine. Il restera encore un drain à faire à l'extérieur et le parking ne pourra pas être terminé à temps, mais on fait ce qu'on peut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui nous donne une parabole sur laquelle il faut bien méditer, le publicain et le pharisien. Et en fait, cette parabole symbolise une différence essentielle qui existe entre deux planètes, deux mondes complètement différents. Un monde centré sur Dieu, le pharisien, un monde centré sur Dieu, le publicain, un monde centré sur le démon, sur l'homme, représenté par le pharisien. Soit un monde centré sur la volonté du bon Dieu, c'est-à-dire sur les droits de Dieu, et c'est encore une fois le publicain qui est représenté là, soit au contraire un monde qui est centré sur les droits de l'homme, sur les droits de l'homme par rapport à Dieu, et là c'est représenté par le pharisien. L'homme qui veut s'élever jusqu'à Dieu, soit Dieu qui s'abaisse jusqu'à l'homme pour aider l'homme à monter au ciel, Dieu qui s'abaisse jusqu'à l'homme pour même prendre l'humanité de l'homme afin de pouvoir mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Soit au contraire, l'homme qui se révolte contre Dieu et qui veut s'élever au niveau de Dieu. L'homme qui s'enfle jusqu'à vouloir devenir Dieu. C'est le monde moderne. Et chercher un exemple un peu pour ce sermon, et je me suis rappelé une chose que j'avais apprise par cœur quand j'étais gamin, j'avais bien oublié depuis, une des fables de La Fontaine. La grenouille qui va se faire aussi grosse que le bœuf, c'est exactement cette histoire. Bon, attention, dans La Fontaine, il y a tout. Une belle leçon pour nous, d'ailleurs, dans la vie de La Fontaine. La Fontaine a écrit des choses belles, les fables de La Fontaine. Il a aussi écrit des horreurs, qui s'appellent les contes de La Fontaine, qui sont pratiquement pornographiques. Avant de mourir, son lit de mort, La Fontaine a supplié les membres de sa famille de détruire l'œuvre des contes qu'il avait écrite. Et la famille n'a pas voulu le faire, parce qu'elle avait bien compris qu'on pouvait faire de l'argent avec ça. Et les contes de La Fontaine ont été publiés. Et il faut bien nous rappeler qu'attention, quand on commet des péchés, il peut y avoir des conséquences pour les péchés que nous commettons. Voilà cette fable, vous allez voir comment elle s'applique exactement au monde d'aujourd'hui. Cette fable, une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et ne se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disant, regardez bien ma sœur, est-ce assez, dites-moi, et suis-je point encore, nenni, m'y voici donc, point du tout. M'y voilà, vous n'en approchez point. Et la chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages, tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs et tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des plages. Voilà ce qu'écrivait Jean de La Fontaine. Mais cette histoire de grenouille qui va s'enfler pour devenir un bœuf et qui va s'enfler jusqu'à en crever parce qu'elle a éclaté, c'est le monde moderne. Le monde moderne qui oublie que notre Seigneur Jésus-Christ est le patron. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut nous rappeler ces choses-là. Dieu est le patron. On a un peu l'impression, j'ai reçu quelques messages déjà à propos des abominations qui ont été commises déjà à Paris hier avec l'inauguration des Jeux Olympiques, là, avec toutes ces blasphèmes publics qui ont été faits avec, dans les silences assourdissants, évidemment, des médias, ce mépris de la foi catholique. Je pense qu'il faut prendre les choses avec la foi. Je crois qu'il nous donne là la plus grande preuve que l'Église catholique est la véritable Église. Pourquoi ces gens-là s'attaquent-ils exclusivement à l'Église catholique? Ils pourraient dire, bon, l'Église catholique aujourd'hui est à moitié morte, humainement parlant. Bergoglio à Rome est tout à fait d'accord avec tout ce qu'on fait. Donc pourquoi s'inquiéter? Non, ils continuent d'attaquer. Est-ce que vous croyez qu'ils vont attaquer le bouddhisme? Est-ce que vous croyez qu'ils vont attaquer l'islam? Non, parce que ce sont les fausses églises, ça ne les gêne pas. Par contre, ils attaquent l'Église catholique. Là, la preuve que l'Église catholique est la véritable Église, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Alors, il ne faut pas se décourager, c'est très beau d'ailleurs. L'Église a à la fois choisi cet évangile qui nous rappelle qu'il y a deux mondes qui sont séparés par un fossé absolument infranchissable. Rappelez-vous Abraham. L'homme riche qui est en enfer et qui vient supplier Abraham de venir mettre le bout du doigt dans l'eau pour lui mettre une goutte d'eau sur ses lèvres et rafraîchir sa langue qui est dévorée par le feu de l'enfer. Et Abraham lui dit, il y a entre vous et moi, vous et nous, un fossé absolument infranchissable. Et bien en même temps, la collecte du jour, la collecte en général donne, le symbole du dimanche qu'on médite. Et bien la collecte du jour va nous rappeler l'importance de la miséricorde. Et j'utilise souvent cette collecte, qui est très importante, c'est la plus belle collecte de l'année, pour tous ceux qui n'ont rien compris à ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont traité de libéral parce que je parle souvent de la miséricorde. Ils ne savent même pas de quoi ils racontent, de quoi ils parlent. Regardez ce que dit l'Église. Ô Dieu qui manifestait surtout votre toute-puissance, comment ? Comment est-ce que Dieu manifeste sa puissance? En envoyant les gens en enfer? En punissant les gens? Non. Qu'est-ce que dit l'Église? Au Dieu qui manifeste surtout votre toute-puissance en pardonnant et en faisant miséricorde. Répandez-la surtout sur nous avec abondance, afin que nous, attendant vers les biens que vous avez promis, nous en rendions participants dans le ciel. Le bon Dieu manifeste sa toute-puissance justement en pardonnant et en faisant miséricorde. Ça doit être pour nous, je dirais, une raison de ne jamais, jamais se décourager, jamais désespérer. N'oubliez pas que s'il y a deux personnes devant Dieu, un gros pécheur et un petit pécheur, le gros pécheur a plus besoin de la miséricorde du bon Dieu. Et comme le bon Dieu est venu d'abord pour les malades, donc il va s'occuper en priorité de ceux qui sont plus malades que ceux qui sont moins malades. C'est du bon sens élémentaire. Donc s'ils avaient deux personnes devant le bon Dieu, un grand malade et un petit malade, un grand pécheur et un petit pécheur, Dieu est obligé de donner plus de grâce à celui qui a commis plus de péchés qu'à celui qui a commis moins de péchés. Voilà ce qu'il faut comprendre. Mais attention à l'obstacle. Le pharisien qui est sûr de lui, qui se vante de tout ce qu'il a fait, c'est évidemment le symbole de l'orgueil, symbole des droits de l'homme. C'est le symbole de tout ce qui vient avec l'orgueil. L'orgueil vient toujours avec deux choses, les honneurs et les richesses. N'oubliez jamais ces trois choses. Qui nous donne, qui promet l'orgueil, les honneurs et les richesses? Il y a deux groupes de gens qui nous promettent tout le temps l'orgueil, les honneurs et les richesses. Il y a le démon, ses sbires, et la franc-maçonnerie. Votre franc-maçonnerie, qu'est-ce que vous propose la franc-maçonnerie? Toujours trois choses, l'orgueil, les honneurs et les richesses. Et ce qu'il faut savoir aussi et bien comprendre, c'est qu'avec cet orgueil vient aussi la haine de Dieu. La haine de Dieu, surtout de l'esprit contemplatif, la haine de tout ce qui peut rapprocher du bon Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la révolution. Haine formelle, dit le Monseigneur Gaume, haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Et cette haine, et ça aussi il faut bien le comprendre aujourd'hui, cette haine va entraîner toujours les mêmes choses. Cette haine de Dieu va entraîner la tristesse, va entraîner la confusion, va entraîner l'aveuglement spirituel, va entraîner l'amour du bruit, l'amour de la laideur. Voilà tout ce qu'amène l'orgueil. Évidemment, les gens du monde ne vont pas vous expliquer ces choses-là. Et ça, c'est le pharisien. Au contraire, le publicain, c'est le symbole de l'humilité. Et qui dit symbole de l'humilité entraîne deux choses. Avec l'humilité, il y a toujours deux choses qui viennent avec. Le mépris du monde et la pauvreté, l'esprit de pauvreté. Donc si vous êtes humble, si vous êtes confiant dans le bon Dieu et pas dans vous-même, immédiatement, vous êtes méprisé par les gens du monde. Et si vous n'êtes pas méprisé par les gens du monde, ça prouve que vous n'êtes pas humble. Et donc s'il y a le mépris des gens du monde, évidemment, il y aura l'esprit de pauvreté qui va être là. Et cette humilité va donner l'amour du bon Dieu, va donner surtout l'esprit de contemplation. L'orgueil donne l'esprit d'activité, activité, action, 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 et on oublie le bon Dieu. L'humilité, au contraire, entraîne l'esprit de contemplation. C'est la révélation qui s'oppose à la révolution. Révolution, le pharisien, révélation, le publicain. Et cette humilité entraîne toujours les mêmes choses. De même que la haine entraîne tout de suite la tristesse, tout ce qui suit. Au contraire, l'humilité va entraîner tout de suite la joie, va entraîner la paix, va entraîner la lumière, va entraîner l'amour du beau, va entraîner l'amour du silence. Mais tout ça doit être absolument, absolument compris. Donc on dit que le pharisien est à l'enfer, ce que le publicain est au ciel. Et donc si je pratique cette humilité qui consiste tout simplement à me confier au bon Dieu, tout simplement, c'est ça l'humilité. Mon Dieu, par moi-même, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Tout ce qui est bien en moi, tout ce qui est bon en moi vient de Dieu, tout ce qui est mauvais en moi vient du démon. Rappelez-vous la phrase de saint Augustin, il y a deux amours, on fait deux cités. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité du monde, la cité de l'enfer. Et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité du ciel. Vous voyez, et on peut aller même beaucoup plus loin une fois qu'on a compris cet évangile. Donc le pharisien qui sort de l'église, qui n'est pas pardonné, non seulement il n'est pas pardonné, mais il a encore un peu plus de péché sur sa conscience. Il était déjà couvert de péché, le péché d'orgueil. Il sort encore plus orgueilleux, encore plus couvert de péché. Au contraire, le publicain qui lui a tout simplement l'humilité de dire au Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pauvre pécheur, il ressort pardonné. Eh bien, ces deux hommes, le pharisien et le publicain, ça représente exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans l'église, mes bien chers frères. Il y a deux églises. Une église fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ et les droits de Dieu, une église fondée sur les droits de l'homme. L'église des droits de l'homme, c'est laquelle? L'église des droits de l'homme, ben, c'est l'église de Vatican II, c'est l'église de Bergoglio. L'église fondée sur les droits de Dieu, au contraire, c'est l'église catholique, une sainte catholique et apostolique. Et donc l'église catholique nous amène au ciel, et l'église du monde nous amène en enfer. C'est comme ça que ça se passe. Mais il est intéressant de voir que, justement, juste après ces grandes vérités qui nous sont expliquées par les textes liturgiques, l'église va aller chercher une fête spéciale. Pour bien comprendre cet évangile, il faut aller chercher la fête de la Transfiguration. La fête de la Transfiguration, elle arrive, ce sera le 6 août. 6 août, c'est la Transfiguration. Et cette Transfiguration, rappelez-vous cette histoire magnifique, là, ce n'est pas une parabole, c'est un fait réel, exactement ce qui s'est passé. Notre Seigneur Jésus-Christ va prendre avec lui Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Il va monter au sommet du Tabor. Et là, il va être transfiguré. Il va être transfiguré, ses vêtements vont devenir blancs comme la neige, sa face va devenir rayonnante comme le soleil. Alors au début, évidemment, les apôtres sont complètement paniqués, ils tombent la face contre terre, ils n'ont même pas regardé. Pourquoi? Parce que Dieu va dévoiler une toute petite partie de sa divinité. Et n'oublions pas une chose, notre Seigneur Jésus-Christ va se transfigurer juste avant la Passion. Il sait que la Passion arrive. Il sait que les apôtres vont être complètement détruits par la Passion, détruits dans le sens qu'ils vont être complètement découragés en voyant notre Seigneur Jésus-Christ être crucifié comme le dernier des esclaves. Il sait que les apôtres vont malheureusement tous s'enfuir. Alors qu'est-ce qu'il fait juste avant la Passion? Il dévoile une toute petite partie de sa divinité pour leur dire « N'oubliez pas, je suis Dieu ». C'est exactement ce qui se passe actuellement. Il faut que nous aussi, mes bien chers frères, à chaque fois que nous venions assister à la Sainte Messe, on sort d'un monde complètement pourri, on est obligé de vivre dans une poubelle gigantesque dans le monde moderne. Il faut que lorsque nous venions à la chapelle devant le Saint-Sacrement, il faut justement que nous retrouvions dans le tabernacle notre Seigneur Jésus-Christ transfiguré. Et c'est à ce moment-là qu'on va comprendre que Dieu est le patron, Dieu dirige. Même si on a l'impression, humainement parlant, que tout s'écroule. Tout ne s'écroule pas, mes bien chers frères. Et c'est pour ça que les apôtres vont dire, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Il est bon pour nous d'être ici. Je pense qu'à l'entrée de la chapelle, on va mettre un panneau avec cette phrase. Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Il est bon pour nous d'être ici, il est bon pour nous d'oublier le monde et venir se remplir du bon Dieu. Vous allez devoir y retourner dans le monde. Il faut que vous remplissiez du bon Dieu justement par la confession, par la communion. On ne peut pas assister à la transfiguration. Et par contre, on peut se confesser, on peut communier. Et à chaque fois que vous confessez, chaque fois que vous communiez, vous êtes transfiguré par la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Imaginez quelqu'un qui est couvert de péchés, qui regrette ses péchés, qui accuse ses péchés avec toutes les conditions, qui est prêt à les réparer. Le prêtre va dire au nom de bon Dieu... Que tous vos péchés soient pardonnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'âme de cet homme va être transfigurée justement par la grâce. D'un seul coup, tout l'amour du bon Dieu, toute la miséricorde du bon Dieu va se précipiter dans cette grâce et va tout effacer tous les péchés, quels qu'ils soient, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur gravité. Encore une fois, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour ça. Et quand nous communions, c'est la même chose. N'oublions pas que ce Dieu qui s'est dévoilé, qui a dévoilé une partie de sa divinité au sommet du Tabor, c'est le même Dieu qui va venir en vous pour la communion. Évidemment, il faut la foi. Au ciel, on verra la divinité et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la terre, les apôtres, ils voyaient au moins l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils pouvaient voir une partie de la divinité par l'application de cette divinité pour faire tous les miracles. Il voyait notre Seigneur Jésus-Christ qui remplissait toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Nous, on voit ni l'humanité, ni la divinité, ni les miracles, ni rien du tout. On voit rien. C'est là qu'il faut la foi. Il faut la foi. Je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez, parce que, étant Dieu, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Voilà ce qu'il faut croire. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. On n'a pas oublié une chose aussi, qui est absolument, absolument, absolument fondamentale. C'est que si je rentre dans le sanctuaire avec un cœur de pharisien, si je rentre au confessionnal avec un cœur de pharisien, mais que j'ai suffisamment d'humilité pour demander en même temps au bon Dieu de venir me convertir, Dieu a suffisamment de puissance pour changer un cœur de pharisien et en faire un cœur de publicain. C'est-à-dire Dieu est capable de prendre l'homme le plus orgueilleux du monde et par sa grâce transformer cet orgueil en humilité. C'est ça la grandeur du sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence est un sacrement qui va faire d'un pharisien plein de lui-même un publicain qui compte sur le bon Dieu. Et nous aussi, nous pourrons dire, Seigneur, ayez pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Et à ce moment-là, la prophétie de l'Évangile va s'appliquer. Je vais rentrer chez moi justifié, parce que celui qui s'élève sera baissé, mais quiconque s'abaisse sera élevé. N'oublions jamais ces choses-là, mes bien chers frères. Ne jamais, 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 jamais nous décourager. Alors il faut vraiment méditer toutes ces grandes vérités de la foi catholique. Ne jamais, jamais se décourager. C'est vrai, quand on voit le gouvernement permettre des moqueries publiques devant des millions et des millions de personnes. Des moqueries de la scène, comme ça c'est de la Sainte Seine du jeudi saint, comme ça s'est fait hier à Paris avec l'inauguration des Jeux Olympiques. On peut se poser des questions. Mais le bon Dieu est toujours le patron, attention. Il est toujours le patron. Et encore une fois, n'oubliez pas, ils ont oublié de se moquer de l'islam. Ils ont oublié de se moquer du bouddhisme. Pourquoi? Ils n'ont pas besoin. Par contre, le fait qu'ils se moquent de l'Église, qu'ils se moquent de chacun d'entre nous, eh bien, chers frères, eh bien, c'est la preuve que l'Église catholique est la véritable Église, sans se décourager. Mais en même temps, en comprenant que le bon Dieu nous demande justement d'avoir le courage, nous aussi, de dire cette phrase qu'ont dit les apôtres, les trois apôtres le jour de la transfiguration, il est bon pour nous d'être ici. Il faut que lorsque nous rentrons dans cette petite chapelle ici, les messes en semaine auront toujours lieu ici, mais les messes de dimanche et jour d'obligation à partir du 15 août auront lieu à Tanus. Il faut vraiment que nous puissions redire les mêmes choses. Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous donnera toutes les grâces dont nous avons besoin, vous voyez. Mais ces grâces, elles arriveront par la confession. Les grâces, elles arriveront par la Sainte Communion. Hier, j'ai bien content, j'ai pu inaugurer le nouveau confessionnal de Tanus. Il est très beau, très confortable, vous revenez vous confesser en paix, voilà. Et c'est tout un symbole. C'est ça notre force. C'est ça notre force. Alors qu'en face, les gens d'en face semblent complètement gagner toutes les victoires. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Rappelez-vous Sainte Jeanne d'Arc. Rappelez-vous tous ces grands saints qui se sont battus avec rien, humainement parlant, absolument rien. Rappelez-vous la bataille de Lépante. Rappelez-vous l'aide miraculeuse que Dieu va envoyer justement à ses soldats pour bloquer, au moins pendant un temps, les progrès de l'islam en Europe. Donc passons, mes bien chers frères, passons par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, qu'il faut vraiment que nous puissions dire, il est bon pour nous d'être ici. Et il faut comprendre que Dieu nous donne toutes ces leçons qui, humainement parlant, sont difficiles à accepter, nous donne toutes ces leçons avant la Passion. Humainement parlant, le Vendredi Saint est un constat d'échec terrible pour ceux qui n'ont rien compris. Le Vendredi Saint, à 3 heures de l'après-midi, le démon a dû se dire, ça y est, j'ai la victoire. Le Fils de Dieu est mort. Et pourtant, le Vendredi Saint, à 3 heures de l'après-midi, quand humainement parlant, tout était mort, c'est au moment précis où notre Seigneur Jésus-Christ va réouvrir les portes du ciel. Et il va réenterrer le démon, en quelque sorte, et le renvoyer en enfer. Donc ne jamais se décourager. Mais attention, mes bien chers frères, ne comptons pas sur nos propres forces. Ne comptons pas sur nos propres prières. Mettons tout au pied de notre Sainte Vierge Marie. Encore une fois, toutes ces grâces extraordinaires de conversion, c'est le cas de ce publicain d'aujourd'hui, cette grâce par laquelle je peux dire du fond du cœur, Seigneur, ayez pitié de moi qui suis un pécheur, recevoir l'absolution sacerdotale, l'absolution du prêtre, c'est déjà une grâce qu'on reçoit pour la Sainte Vierge, attention. Même la grâce de la messe, c'est la Sainte Vierge. L'Église n'a pas enseigné à ta Sainte Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces, sauf pour la confession et la messe. Non. Ta Sainte Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces, pour toutes les grâces. Médiatrice de toutes les grâces. Mais pourquoi le monde moderne ne veut pas de ça? Pourquoi Bernard Oblio a eu le cul de dire que la Ta Sainte Vierge Marie n'était pas médiatrice? Pas médiatrice. Elle est médiatrice. Et parce qu'elle est médiatrice, l'Église va même plus loin. Non seulement elle est médiatrice, mais elle est co-rédemptrice du genre. Ça veut dire quoi, co-rédemptrice? Elle rachète avec. Rédimere, c'est racheter. Cum, c'est avec. Elle rachète avec son Fils. Dieu va appliquer toutes les grâces de la Passion, les grâces de sa mort sur la croix, les grâces de la résurrection par la très Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie est au ciel. Il ne faut pas oublier ça. Tous les gens qui salissent notre civilisation, civilisation chrétienne, tous les gens qui cherchent à abêtir l'homme, à pousser ses vices épouvantables contre nature partout dans toutes les âmes, sur toutes les âmes des enfants, ils ne peuvent rien faire contre ta Sainte Vierge Marie. Et elle a dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu en parlant d'elle, a dit, ipsa conteret. Voilà la phrase que le démon craint le plus. Ipsa conteret. C'est un féminin. Elle t'écrasera la tête. Mais attention, notre Seigneur Dieu a voulu prononcer cette phrase au futur. Notre Seigneur Jean-Marie n'a pas dit aujourd'hui, mon règne immaculé triomphera. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Elle t'écrasera la tête le jour où le bon Dieu l'aura voulu. Mais elle, elle est au ciel et le démon peut salir tout ce qu'il veut, il ne peut pas salir notre Sainte Vierge Marie, impossible. Le bon Dieu n'a jamais voulu, permis que le démon puisse toucher sa mère. Il a accepté d'être touché par le démon, une chose invraisemblable. Le démon va prendre notre Seigneur Jésus-Christ, physiquement le monter au sommet du temple, le monter au sommet, de la montagne, lors des trois tentations. Mais le bon Dieu ne va jamais permettre que le démon puisse toucher, simplement toucher, effleurer la Sainte Vierge. Elle est reine du ciel. Alors passons par elle. Ne nous décourageons jamais, bien chers frères. Ne nous décourageons jamais, passons par la très Sainte Vierge Marie et méditons l'importance de cette vertu d'humilité. Sans Dieu, je ne peux rien faire, mais avec Dieu, tout est possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.